Octave Mirbeau, Le Calvaire. Je suis né un soir d'octobre à Saint-Michel-les-Hêtres, près du petit bourg du département de l'Orne, et je fus aussitôt baptisé au nom de Jean-François Marie Mintier. Pour fêter, comme il convenait, cette entrée dans le monde, mon parrain, qui était mon oncle, distribua beaucoup de bonbons, jeta beaucoup de sous et de liards aux gamins du pays réunis sur les marches de l'église. L'un d'eux, en se battant avec ses camarades, tomba sur le coupant d'une pierre si malheureusement qu'il se fendit le crâne et mourut le lendemain. Quant à mon oncle, rentré chez lui, il prit la fièvre typhoïde et trépassa quelques semaines après. Ma bonne, la vieille Marie, m'a souvent conté ces incidents avec orgueil et admiration. Saint-Michel-les-Hêtres est situé à l'orée d'une grande forêt de l'État, la forêt de Tourouvre. Bien qu'il compte 1500 habitants, il ne fait pas plus de bruit que n'en font dans la campagne par une calme journée les arbres, les herbes et les blés. Une futaie de hêtres géants qui s'empourprent à l'automne l'abrite contre les vents du nord et les maisons aux toits de tuiles vont, descendant la pente du coteau, gagner la vallée large et toujours verte où l'on voit errer les bœufs par troupeaux. La rivière Duine, brillante sous le soleil, festonne et se tord capricieusement dans les prairies que séparent l'une de l'autre des rangées de hauts peupliers. De pauvres tanneries, de petits moulins s'échelonnent sur son cours, clairs parmi les bouquets d'aulnes. De l'autre côté de la vallée, ce sont des champs, avec les lignes géométriques de leurs haies et de leurs pommiers, qui vagabondent. L'horizon s'égaie de petites fermes roses, de petits villages qu'on aperçoit de ci de là à travers des verdures presque noires. En toute saison, dans le ciel, à cause de la proximité de la forêt, vont et viennent les corbeaux et les choucas au bec jaune. Ma famille habitait à l'extrémité du pays, en face de l'église, très ancienne et branlante, une vieille et curieuse maison qu'on appelait le prieuré, dépendante d'une abbaye qui fut détruite par la Révolution et dont il ne restait que 2 ou 3 pans de murs croulants couverts de lierre. Je revois, sans attendrissement mais avec netteté, les moindres détails de ces lieux où mon enfance s'écoula. Je revois la grille toute déjetée qui s'ouvrait en grinçant sur une grande cour, cornait une pelouse teigneuse, 2 sorbiers chétifs, hantés des merles, des marronniers très vieux et si gros de tronc que les bras de 4 hommes, disait orgueilleusement mon père à chaque visiteur, n'eût soin suffi à les embrasser. Je revois la maison avec ses murs de briques, morose, renfrognée, son perron en demi-cercle où s'étiolaient des géraniums, ses fenêtres inégales qui ressemblaient à des trous, son toit très en pente terminé par une girouette qui ululait à la brise comme un hibou. Derrière la maison, je revois le bassin où baignaient des arômes bourbeux, où se jouaient des carpes maigres aux écailles blanches. Je revois le sombre rideau de sapin qui cachait les communs, la basse-cour, l'étude que mon père avait fait bâtir en bordure d'un chemin longeant la propriété, de façon que le va-et-vient des clients et des clercs ne troubla point le silence de l'habitation. Je revois le parc, ses arbres énormes, bizarrement tordus, mangés de polypes et de mousses, que reliaient entre eux les lianes enchevêtrées, les allées jamais ratissées, où des bancs de pierre effrités se dressaient de place en place comme de vieilles tombes. Et je me revois aussi, chétif en sarrau de lustrine, courir à travers cette tristesse des choses délaissées, me déchirer aux ronces, tourmenter les bêtes dans la basse-cour, ou bien suivre des journées entières au potager Félix qui nous servait de jardinier, de valet de chambre et de cocher. Les années ont passé. Tout est mort de ce que j'ai aimé. Tout s'est renouvelé de ce que j'ai connu. L'église est rebâtie, elle a un portail ouvragé, des fenêtres en ogive, de riches gargouilles qui figurent des gueules embrasées de démons. Son clocher de pierre neuve rit gaiement dans l'azur, à la place de la vieille maison s'élève un prétentieux chalet construit par le nouvel acquéreur qui a multiplié dans l'enclos les boules de verre coloriées, les cascades réduites et les amours en plâtre encrassés par la pluie. Mais les choses et les êtres me restent gravés dans le souvenir si profondément que le temps n'a pu en user la gâte dure. Je veux dès maintenant parler de mes parents, non tels que je les voyais enfants, mais tels qui m'apparaissent aujourd'hui, complétés par le souvenir, humanisés par les révélations et les confidences, dans toute la crudité de lumière, dans toute la sincérité d'impression, que redonnent aux figures trop vite aimées et de trop près connues les leçons inflexibles de la vie. Mon père était notaire. Depuis un temps immémorial, cela se passait ainsi chez les Minetiers. Il semblait monstrueux et tout à fait révolutionnaire qu'un Minetier osât interrompre cette tradition familiale et qu'il renia les panonceaux de bois doré, lesquels se transmettaient, pareils à un titre de noblesse, de génération en génération, religieusement. À Saint-Michel-les-Hêtres et dans les contrées avoisinantes, mon père occupait une situation que les souvenirs laissés par ses ancêtres, ses allures rondes de bourgeois campagnards et surtout ses 20 000 francs de rente rendaient importante, indestructible. Maire de Saint-Michel, conseiller général, suppléant du juge de paix, vice-président du comice agricole, membre de nombreuses associations agronomiques et forestières, il ne négligeait aucun de ces petits et ambitionnés honneurs de la vie provinciale qui donnent le prestige et déterminent l'influence. C'était un excellent homme, très honnête et très doux, et qui avait la manie de tuer. Or, il ne pouvait voir un oiseau, un chat, un insecte, n'importe quoi de vivant, qui ne fût pris aussitôt du désir étrange de le détruire. Il faisait aux merles, aux chardonnerets, aux pinsons et aux bouvreuils une chasse impitoyable, une guerre acharnée de trappeurs. Félix était chargé de le prévenir dès qu'apparaissait un oiseau dans le parc et mon père quittait tout, clients, affaires, repas, pour massacrer l'oiseau. Souvent, il s'embusquait des heures entières, immobile, derrière un arbre où le jardinier lui avait signalé une petite mésange à tête bleue. Et à la promenade, chaque fois qu'il apercevait un oiseau sur une branche, s'il n'avait pas son fusil, il le visait avec sa canne et ne manquait jamais de dire « Pan! Il y était le matin! » Ou bien « Pan! J'aurais raté pour sûr, c'est trop loin! » Ce sont les seules réflexions que lui aient jamais inspirées les oiseaux. Les chats aussi étaient une de ses grandes préoccupations. Quand, sur le sable des allées, il reconnaissait un piquet de chat, il n'avait plus de repos qui ne l'eût découvert et occis. Quelquefois, la nuit, par les beaux clairs de lune, il se levait, restait à l'affût jusqu'à l'aube. Il fallait le voir, son fusil sur l'épaule, tenant par la queue un cadavre de chat sanglant et raide. Jamais je n'admirais rien de si héroïque, et David ayant tué Goliath ne dut pas avoir l'air plus enivré de triomphe. D'un geste auguste, il jetait le chat au pied de la cuisinière, qui disait « Oh la sale bête !» et aussitôt se mettait à le dépecer, gardant la viande pour les mendiants, faisant sécher au bout d'un bâton la peau qu'elle vendait aux Auvergnats. Si j'insiste autant sur des détails en apparence insignifiants, c'est que pendant toute ma vie, j'étais obsédé, hanté par les histoires de chats de mon enfance. Il en est une, entre autres, qui fit sur mon esprit une telle impression que maintenant encore, malgré les années enfouies et les douleurs subies, pas un jour ne se passe que je n'y songe tristement. Une après-midi, nous nous promenions dans le jardin, mon père et moi. Mon père avait à la main une longue canne terminée par une brochette de fer, au moyen de laquelle il enfilait les escargots et les limaces, mangeurs de salade. Soudain, au bord du bassin, nous vîmes un petit sous-petit chat qui buvait, et nous nous dissimulâmes derrière une touffe de seringas. « Petit, me dit mon père, très bas, va vite, me chercher mon fusil. Fais le tour, prends bien garde qu'il ne te voie. » Et, s'accroupissant, il écarta avec précaution les brindilles du seringas, de manière à suivre tous les mouvements du chat qui, arc-bouté sur ses pattes de devant, le col étiré, frétillait de la queue, lapait l'eau du bassin et relevait la tête de temps en temps pour se lécher les poils et se gratter le cou. « Allons !» répéta mon père. « Décarpis !» Ce petit chat me faisait grand pitié. Il était si joli avec sa fourrure fauve, riée de noir soyeux, ses mouvements souples et menus et sa langue pareille à un pétale de rose qui pompait l'eau. J'aurais voulu désobéir à mon père. Je songeais même à faire du bruit, à tousser, à froisser rudement les branches pour avertir le pauvre animal du danger. Mais mon père me regarda avec des yeux si sévères que je m'éloignais dans la direction de la maison. Je revins bientôt avec le fusil. Le petit chat était toujours là, confiant et gai. Il avait fini de boire. Assis sur son derrière, les oreilles dressées, les yeux brillants, le corps frissonnant, il suivait dans l'air le vol d'un papillon. Oh, ce fut une minute d'indicible angoisse. Le cœur me battait si fort que je crus que j'allais défaillir. « Papa, papa !» criai-je. En même temps, le coup partit, un coup sec qui claqua comme un coup de fouet. « Sacré matin !» jura mon père. Il avait visé de nouveau. Je vis son doigt presser la gâchette. Vite, je fermais les yeux et me bouchai les oreilles. « Pan !» J'entendis un miaulement d'abord, plaintif, puis douloureux. Oh, si douloureux, on eût dit le cri d'un enfant. Et le petit chat bondit, se tordit, gratta l'herbe, et ne bougea plus. D'une absolue insignifiance d'esprit, d'un cœur tendre, bien qu'il semblât indifférent à tout ce qui n'était pas ses vanités locales et les intérêts de son étude, prodigue de conseils, aimant à rendre service, conservateur, bien portant et gai, mon père jouissait en toute justice de l'universel respect. Ma mère, une jeune fille noble des environs, ne lui apporta en dot aucune fortune, mais des relations plus solides, des alliances plus étroites avec la petite aristocratie du pays, ce qu'il jugeait aussi utile qu'un surcroît d'argent ou qu'un agrandissement de territoire. Quoique ses facultés d'observation fussent très bornées, qu'il ne se piqua point d'expliquer les âmes comme il expliquait la valeur d'un contrat de mariage et les qualités d'un testament, mon père comprit vite toute la différence de race, d'éducation et de sentiment qui le séparait de sa femme. S'il en éprouva de la tristesse d'abord, je ne sais en tout cas, il ne la fit point paraître. Il se résigna. Entre lui, un peu lourdeau, ignorant, insouciant, et elle, instruite, délicate, enthousiaste, il y avait un abîme qui n'essaya pas un seul instant de combler, ne s'en reconnaissant ni le désir, ni la force. Cette situation morale de deux êtres liés ensemble pour toujours, que ne rapproche aucune communauté de pensée et d'aspiration, ne gênait nullement mon père qui, vivant beaucoup dans son étude, se donnait pour satisfait s'il trouvait la maison bien dirigée les repas bien ordonnés, ses habitudes et ses manies strictement respectées. En revanche, elle était très pénible, très lourde au cœur de ma mère. Ma mère n'était pas belle, encore moins jolie, mais il y avait tant de noblesse simple dans son attitude, tant de grâce naturelle dans ses gestes, une si grande bonté sur ses lèvres un peu pâles, et dans ses yeux qui tour à tour se décoloraient comme un ciel d'avril et se fronçaient comme le saphir, un sourire si caressant, si triste, si vaincu, qu'on oubliait le front trop haut, bombant sous les mèches de cheveux irrégulièrement plantés, le nez trop gros et le teint gris, métallisé qui parfois se plaquait de légères coupes roses. Auprès d'elle, m'a dit souvent un de ses vieux amis, et je l'ai depuis bien douloureusement compris, auprès d'elle, on se sentait pénétré, puis peu à peu envahi, puis irrésistiblement dominé par un sentiment d'étrange sympathie, où se confondaient le respect attendri, le désir vague, la compassion et le besoin de se dévouer. Malgré ses imperfections physiques, ou plutôt à cause de ses imperfections même, elle avait le charme amer et puissant qu'ont certaines créatures privilégiées du malheur, et autour desquelles flotte on ne sait quoi d'irrémédiable. Son enfance et sa première jeunesse avaient été souffrantes et marquées de quelques incidents nerveux, inquiétants. Mais on avait espéré que le mariage, modifiant les conditions de son existence, rétablirait une santé que les médecins disaient seulement atteinte par une sensibilité excessive. Il n'en fut rien. Le ménage, le mariage au contraire, ne fit que développer les germes morbides qui étaient en elle, et la sensibilité s'exalta au point que ma pauvre mère, entre autres phénomènes alarmants, ne pouvait supporter la moindre odeur sans qu'une crise ne se déclarât, qui se terminait toujours par un évanouissement. De quoi souffrait-elle donc? Pourquoi ces mélancolies, ces prostrations qui la courbaient de longs jours, immobile et farouche, dans un fauteuil, comme une vieille paralytique? Pourquoi ces larmes qui tout à coup lui secouaient la gorge à l'étouffer, et pendant des heures tombaient de ses yeux en pluie brûlante? Pourquoi ces dégoûts de toutes choses que rien ne pouvait vaincre, ni les distractions, ni les prières? Elle n'aurait pas pu le dire, car elle ne le savait pas. De ces douleurs physiques, de ces tortures morales, de ces hallucinations qui lui faisaient monter du cœur au cerveau les ivresses de mourir, elle ne savait rien. Elle ne savait pas pourquoi un soir, devant l'âtre, où brûlait un grand feu, elle eut subitement la tentation horrible de se rouler sur le brasier, de livrer son corps au baiser de la flamme qui l'appelait, la fascinait, lui chantait des hymnes d'amour inconnus. Elle ne savait pas pourquoi non plus, un autre jour, à la promenade, apercevant dans un pré à moitié fauché un homme qui marchait sa fosse sur l'épaule, elle courut vers lui, tendant les bras, criant « Mort, ô mort bienheureuse, prends-moi, emporte-moi !» Non, en vérité, elle ne le savait pas. Ce qu'elle savait, c'est qu'en ces moments, l'image de sa mère morte, était là, toujours devant elle, de sa mère qu'elle-même, un dimanche matin, elle avait trouvé pendue au lustre du salon. Et elle revoyait le cadavre qui oscillait légèrement dans le vide, cette face toute noire, ses yeux tout blancs, sans prunelles, et jusqu'à ce rayon de soleil qui filtrant à travers les persiennes closes, éclaboussait d'une lumière tragique la langue pendante et les lèvres boursouflées. Ses souffrances, ses égarements, ses enivrements de la mort, sa mère, sans doute, les lui avait donnés en lui donnant la vie. C'est au flanc de sa mère qu'elle avait puisé, du sein de sa mère qu'elle avait aspiré le poison, ce poison qui maintenant emplissait ses veines, dont les chairs étaient imprégnées, qui grisait son cerveau, rongeait son âme. Dans les intervalles de calme plus rares, à mesure que les jours s'écoulaient et les mois et les années, elle pensait souvent à ces choses, et en analysant son existence, en remontant des plus lointains souvenirs aux heures du présent, en comparant les ressemblances physiques qu'il y avait entre la mère morte volontairement et la fille qui voulait mourir, elle sentait peser davantage sur elle le poids de ce lugubre héritage. Elle s'exaltait, s'abandonnait à cette idée qu'il ne lui était pas possible de résister aux fatalités de sa race, qui lui apparaissait alors, ainsi qu'une longue crainte de suicider, partie de la nuit profonde, très loin, et se déroulant à travers les âges, pour aboutir. Où ? À cette question, ses yeux devenaient troubles, ses tempes s'humectaient d'une moiteur froide, et ses mains se crispaient autour de sa gorge, comme pour en arracher la corde imaginaire dont elle sentait le nœud lui meurtrir le cou et l'étouffer. Chaque objet était à ses yeux un instrument de la mort fatale. Chaque chose lui renvoyait son image décomposée et sanglante. Les branches des arbres se dressaient pour elle comme autant de sinistres gibets, et dans l'eau verdie des étangs, parmi les roseaux et les nénuphars, dans la rivière aux longs herbages, elle distinguait sa forme flottante, couverte de limon. Pendant ce temps, mon père, accroupi derrière un massif de seringas, le fusil au poing, guettait un chat ou bombardait une fauvette vocalisant, furtive sous les branches. Le soir, pour toute consolation, il disait doucement: « Eh bien, ma chérie, cette santé, ça va toujours pas? Des amers, vois-tu, prends des amers, un verre le matin, un verre le soir, il n'y a que cela. » Il ne se plaignait pas, ne s'emportait jamais. S'asseyant devant son bureau, il passait en revue les paperasses que lui avait apportées dans la journée le secrétaire de la mairie et les signait rapidement d'un air de dédain. « Tiens ! » s'écria-t-il alors, « c'est comme cette sale administration. Il ferait bien mieux de s'occuper du cultivateur au lieu de nous embêter avec toutes ces histoires. Oh, voilà des bêtises !» Puis il allait se coucher, répétant d'une voix tranquille, « Mais des amers, prends des amers !» Cette résignation la troublait comme un reproche. Bien que mon père fût médiocrement élevé, qu'elle ne trouva en lui aucun des sentiments de tendresse mâle, ni la poésie chimérique qu'elle avait rêvée. Elle ne pouvait nier son activité physique et cette sorte de santé morale que parfois elle enviait, tout en en méprisant l'application à des choses qu'elle jugeait petites et basses. Elle se sentait coupable envers lui, coupable envers elle-même, coupable envers la vie, si stérilement gaspillée dans les larmes. Non seulement elle ne se mêlait plus aux affaires de son mari, mais peu à peu elle se désintéressait de ses propres devoirs de femme de ménage, laissait la maison aller aux caprices des domestiques, et se négligeait au point que sa femme de chambre, la bonne et vieille Marie, qui l'avait vue naître, était obligée souvent, en la grondant affectueusement, de la prendre, de la soigner, de lui donner à manger, comme on fait d'un petit enfant au berceau. En son besoin d'isolement, elle en arriva à ne plus pouvoir supporter la présence de ses parents, de ses amis, lesquels, gênés, rebutés par ce visage de plus en plus morose, cette bouche où ne sentait jamais une parole, ce sourire contraint que crispait aussitôt un involontaire tremblement des lèvres, espacèrent leur visite et finirent par oublier complètement le chemin du prieuré. La religion lui devint comme le reste une lassitude. Elle ne mettait plus les pieds à l'église, ne priait plus, et deux Pâques se succédèrent sans qu'on la vît s'approcher de la Sainte Table. Alors, ma mère se confina dans sa chambre, dont elle fermait les volets et tirait les rideaux, épaississant autour d'elle l'obscurité. Elle passait là ses journées, tantôt étendue sur une chaise longue, tantôt agenouillée dans un coin, la tête au mur. Et elle s'irritait dès que le moindre bruit du dehors, un claquement de porte, un glissement de savates le long du corridor, le hennissement de cheval dans la cour, venait troubler son noviciat du néant. Hélas, que faire à tout cela? Pendant longtemps, elle avait lutté contre le mal inconnu, et le mal, plus fort qu'elle, l'avait terrassé. Maintenant, sa volonté était paralysée. Elle n'était plus libre de se relever ni d'agir. Une force mystérieuse la dominait, qui lui faisait les mains inertes, le cerveau brouillé, le cœur vacillant comme une petite flamme fumeuse battue des vents. Et loin de se défendre, elle recherchait les occasions de s'enfoncer plus avant dans la souffrance, écoutait avec une sorte d'exaltation perverse les effroyables délices de son anéantissement. Dérangé dans l'économie de son existence domestique, mon père se décida enfin à s'inquiéter des progrès d'une maladie qui passait son entendement. Il eut toutes les peines du monde à faire accepter à ma mère l'idée d'un voyage à Paris afin de consulter les princes de la science. Le voyage fut navrant. Des trois médecins célèbres chez lesquels il la conduisit, le premier déclara que ma mère était anémique et prescrivit un régime fortifiant. Le second, qu'elle était atteinte de rhumatisme nerveux, et ordonna un régime débilitant, et le troisième affirma que ce n'était rien et recommanda de la tranquillité d'esprit. Personne n'avait vu clair dans cette âme. Elle-même s'ignorait. Obsédée par le cruel souvenir auquel elle rattachait tous ses malheurs, elle ne pouvait dérouiller avec netteté ce qui s'agitait confusément dans le secret de son être, ni ce qui, depuis son enfance, s'y était amassé d'ardeurs vagues, d'aspirations prisonnières, de rêves captifs. Elle était pareille au jeune oiseau qui, sans rien démêler à l'obscur et nostalgique besoin qui le pousse vers les grands cieux, dont il ne se souvient pas, se meurtrit la tête et se casse les ailes aux barreaux de la cage. Et au lieu d'aspirer à la mort, ainsi qu'elle le croyait, comme l'oiseau qui a faim du ciel inconnu, son âme à elle avait faim de la vie rayonnante de tendresse, gonflée d'amour, et comme l'oiseau, elle mourait de cette faim inassouvie. Enfant, elle s'était donnée avec toute l'exagération de sa nature passionnée à l'amour des choses et des bêtes. Jeune fille, elle s'était livrée avec emportement à l'amour des rêves impossibles. Mais ni les choses ne lui furent un apaisement, ni les rêves ne prirent une forme consolante et précise. Autour d'elle, personne pour la guider, personne pour redresser ce jeune cerveau, déjà ébranlé par des secousses intérieures. Personne. Personne pour ouvrir aux salutaires réalités la porte de ce cœur déjà gardé par les chimères aux yeux vides. Personne en qui verser le trop-plein des pensées, des tendresses, des désirs, qui ne trouvant pas d'issue à leur expansion, s'amoncelaient, bouillonnaient, prêts à faire éclater l'enveloppe fragile, mal défendue par des nerfs trop bandés. Sa mère, toujours malade, absorbée uniquement en ses mélancolies qui devaient bientôt la tuer, était incapable d'une direction intelligente et ferme. Son père, à peu près ruiné et réduit aux expédients, luttait pied à pied pour conserver à sa famille la maison séculaire menacée. Et parmi les jeunes gens qui passaient, gentilshommes futiles, bourgeois vaniteux, paysans avides, aucun ne portait sur le front l'étoile magique qui la conduirait jusqu'aux dieux. Tout ce qu'elle entendait, tout ce qu'elle voyait, lui semblait en désaccord avec sa manière de comprendre et de sentir. Pour elle, les soleils n'étaient pas assez rouges, les nuits assez pâles, les ciels assez infinis. Sa conception des êtres et des choses, indéterminée, flottante, la condamnait fatalement aux perversions des sens, aux égarements de l'esprit, et ne lui laissait que le supplice du rêve jamais atteint, des désirs qui jamais ne s'achèvent. Et plus tard, son mariage, qui avait été plus qu'un sacrifice, un marché, un compromis pour sauver la situation embarrassée de son père. Et ses dégoûts et ses révoltes de se sentir morceau de chair avilie, la proie, l'instrument passif des plaisirs d'un homme. S'être envolé si haut et retombé si bas, avoir rêvé de baisers célestes, d'enlacements mystiques, de possessions idéales, et puis ce fut fini. Au lieu des espaces éblouissants de lumière où son imagination se complaisait, parmi des vols d'anges pâmés et de colombes éperdues, la nuit vint, la nuit sinistre et pesante, que hanta seul le spectre de la mer, trébuchant sur des croix et sur des tombes, la corde au cou. Le prieuré se fit bientôt silencieux. On n'entendit plus crier sur le sable des allées les roues des charrettes et des cabriolets amenant les amis du voisinage devant le perron garni de géranium. On verrouilla la grande grille afin d'obliger les voitures à passer par la basse-cour. À la cuisine, les domestiques se parlaient bas et marchaient sur la pointe du pied comme on fait dans la maison d'un mort. Le jardinier, d'après l'ordre de ma mère, qui ne pouvait pas supporter le bruit des brouettes et des grattements des râteaux sur la terre, laissait les sauvages pomper la sève des rosiers jaunis, l'herbe étouffer les corbeilles de fleurs et verdir les allées. Et la maison, avec le noir rideau de sapin, pareil à un catafalque qu'il abritait à l'ouest avec ses fenêtres toujours closes, avec le cadavre vivant qu'elle gardait enseveli sous ses murs carrés de vieilles briques, ressemblait à un immense caveau funéraire. Les gens du pays, qui le dimanche allaient se promener en forêt, ne passaient plus devant le prieuré qu'avec une sorte de terreur superstitieuse, comme si cette demeure était un lieu maudit, hanté des fantômes. Bientôt même une légende s'établit. Un bûcheron raconta qu'une nuit, rentrant de son ouvrage, il avait vu Madame Mainthier, toute blanche, échevelée, qui traversait le ciel très haut en se frappant la poitrine à coups de crucifix. Mon père se renferma davantage dans son étude, évitant, autant qu'il le pouvait, de rester à la maison, où il n'apparaissait guère qu'aux heures des repas. Il prit aussi l'habitude des foires lointaines, se multiplia aux comités, aux associations qu'il présidait, s'ingénia, se créait des distractions nouvelles, des occupations éloignées. Le conseil général, le comice agricole, le jury de la cour d'assises lui étaient de grandes ressources. Lorsqu'on lui parlait de sa femme, il répondait, hochant la tête, « Oh, je suis très inquiet, très tourmenté. Comment ça finira-t-il? Je vous l'avoue, je crains que la pauvre femme ne devienne folle. » Et comme on se récriait, « Oh non, 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 je ne plaisante pas, vous savez bien que dans la famille, on n'a pas la tête si solide. » Jamais un reproche d'ailleurs, bien qu'il constatât tous les jours le préjudice que cette situation causait à ses affaires, et qu'il ne comprenait rien à l'irritante obstination de ma mère, de ne vouloir rien tenter pour sa guérison. Et c'est dans ce milieu attristé que je grandis. J'étais venu au monde malingre et chétif. Que de soins, que de tendresse farouche, que d'angoisse mortelle. devant le pauvre être que j'étais, animé d'un souffle de vie si faible qu'on eût dit plutôt un râle, ma mère oublia ses propres douleurs. La maternité redressa en elle les énergies abattues, réveilla la conscience des devoirs nouveaux, des responsabilités sacrées dont elle avait maintenant la charge. Quelles nuits ardentes, quels jours enfiévrés, elle connut, penchée sur le berceau, où quelque chose, détaché de sa chair et de son âme, palpitait. De sa chair et de son âme, ah oui, je lui appartenais à elle seule. Ce n'était point de sa soumission conjugale que j'étais né. Je n'avais pas, comme les autres fils des hommes, la souillure originelle. Elle me portait dans ses flancs depuis toujours, et, semblable à Jésus, je sortais d'un long cri d'amour. Ses troubles, ses terreurs, ses détresses anciennes, elle les comprenait maintenant. C'est qu'un grand mystère de création s'était accompli dans son être. Elle eut beaucoup de peine à m'élever, et si je vécus, on peut dire que ce fut un miracle de l'amour. Plus de 20 fois ma mère m'arracha des bras de la mort. Aussi, quelle joie et quelle récompense quand elle put voir ce petit corps plissé se remplir de santé, ce visage fripé se colorer de nacre rose, ses yeux s'ouvrir gaiement au sourire, ses lèvres remuer avides, chercheuses, et pomper gloutonnement la vie au sein nourricier. Ma mère goûta quelques mois d'un bonheur complet et sain. Un besoin d'agir, d'être bonne et utile, de s'occuper sans cesse les mains, le cœur et l'esprit, de vivre enfin, la reprenait. Et elle trouva, jusque dans les détails les plus vulgaires de son ménage, un intérêt nouveau, passionnant, qui se doublait d'une paix profonde. La gaieté lui revint, une gaieté naturelle et douce, sans saccade violente. Elle faisait des projets, envisageait l'avenir avec confiance, et bien des fois elle s'étonna de ne plus songer au passé, ce mauvais rêve évanoui. Je me développais. On le voit pousser tous les jours, disait la bonne. Et avec une émotion délicieuse, ma mère suivait le secret travail de la nature, qui polissait l'ébauche de chair, lui donnait des formes plus souples, des traits plus fermes, des mouvements mieux réglés, et coulait dans le cerveau obscur, à peine sorti du néant, les primitives lueurs de l'instinct. Oh, comme toute chose lui semblait aujourd'hui revêtue de couleurs charmantes et légères! Ce n'était que musique de bienvenue, bénédiction d'amour, et les arbres eux-mêmes, jadis si pleins d'effroi et de menaces, étendaient au-dessus d'elle leurs feuilles comme autant de mains protectrices. On put espérer que la mère avait sauvé la femme. Hélas, cette espérance fut de courte durée. Un jour, elle remarqua chez moi une prédisposition aux spasmes nerveux, des contractions maladives des muscles, et elle s'inquiéta. Vers l'âge d'un an, j'eus des convulsions qui faillirent m'emporter. Et les crises furent si violentes que ma bouche, longtemps après, demeura comme paralysée, tordue en une laide grimace. Ma mère ne se dit pas qu'au moment des croissances rapides, la plupart des enfants subissent de ces accidents. Elle vit là un fait particulier à elle et à sa race, les premiers symptômes du mal héréditaire, du mal terrible qui allait se continuer en son fils. Pourtant, elle se raidit contre les pensées qui revenaient en foule. Elle employa ce qu'elle avait retrouvé d'énergie et d'activité à les dissiper, se réfugiant en moi comme en un asile inviolable, à l'abri des fantômes et des démons. Elle me tenait serré contre sa poitrine, me couvrant de baisers, disant: Jo, petit Jean, c'est pas vrai, dis, tu vivras et tu seras heureux. Réponds-moi, Hélas, tu peux pas parler, pauvre ange. Oh, ne crie pas, ne crie jamais. Jean, mon cher petit Jean. Mais elle avait beau m'interroger, elle avait beau sentir mon cœur battre contre le sien, mes mains maladroites lui griffaient les mamelles, mes jambes s'agitaient joyeusement hors des langes dénouées. Sa confiance était partie, les doutes triomphaient. Un incident, oh, qu'on m'a conté bien des fois avec une sorte d'épouvante religieuse, vint ramener le désordre dans l'âme de ma mère. Elle était au bain. Dans la salle, dallée de carreaux noirs et blancs, Marie, penchée sur moi, surveillait mes premiers pas hésitants. Tout à coup, fixant un carreau noir, je parus très effrayé. Je poussai un cri et, tout tremblant, comme si j'avais vu quelque chose de terrible, je me cachai la tête dans le tablier de ma bonne. Qu'y a-t-il donc? Interrogea vivement ma mère. Je sais pas, répondit la vieille Marie. On dirait que monsieur Jean a peur d'un pavé. Elle me ramena à l'endroit même où ma figure avait si subitement changé d'expression. Mais à la vue de ce pavé, je criai de nouveau et tout mon corps frissonna. Il y a quelque chose, s'écria ma mère. Marie, vite, vite, mon linge. Mon Dieu, mais qu'a-t-il vu? Sorti du bain, elle ne voulut pas attendre qu'on l'essuyât, et à peine le couvert de son peignoir, elle se baissa sur le carreau et l'examina. C'est singulier, murmura-t-elle, et pourtant il l'a vu, mais quoi? Il n'y a rien. Elle me prit dans ses bras, me berça. Maintenant, je souriais, bégayais de vagues syllabes, jouais avec les cordons du peignoir. Elle me mit à terre. Marchant de mon pas raide et chancelant, les deux bras en avant, je ronronnais comme un jeune chat. Aucun des pavés devant lesquels je m'arrêtais ne me causa le moindre effroi. Arrivé devant le pavé fatal, ma figure encore exprima la terreur, et tout agité, tout pleurant, je me retournai brusquement vers ma mère. Mais je vous dis qu'il y a quelque chose, s'écria-t-elle. Appelez Félix, qu'il vienne avec des outils et un marteau. Vite, vite, prévenez monsieur aussi. Et tout de même bien curieux, affirmait Marie, qui, bouche béante, yeux écarquillés, considérait le mystérieux pavé. C'est donc qu'il est sorcier? Félix souleva le carreau, le regarda dans tous les sens, creusa le plâtre en dessous. Mais enlevez l'autre, commandait ma mère. Allons, et celui-là encore, et tous, tous, je veux qu'on trouve. Oh, et monsieur qui ne vient pas. Dans l'emportement de ses gestes, oubliant qu'un homme était là, elle se découvrait et montrait la nudité de son corps. À genoux, sur les dalles, Félix continuait de les soulever. Il les prenait une à une dans ses grosses mains, branlait la tête. Bon, si madame veut que je lui dise, d'abord monsieur est dans le fond du parc en train d'affûter un pic vert, et puis a rien du tout, les carreaux sont des carreaux. Censément des pavés, voilà. Bon, madame peut être sûre. Seulement, ça se pourrait bien que ce soit dans l'imagination de monsieur Jean. Madame sait que les enfants, c'est pas comme les grandes personnes et que ça voit des choses. Mais pour ce qui est de ces carreaux, c'est les carreaux, ni plus ni moins. Ma mère était devenue pâle, hagarde. Taisez-vous, ordonna-t-elle, et allez-vous-en tous. Et sans attendre l'exécution de son ordre, elle m'emporta. Dans l'escalier et les corridors, ses cris retentissaient, coupés par les claquements de portes. Elle n'avait pas pensé, la pauvre chère créature, à donner de l'incident de la salle de bain une explication toute naturelle cependant. On lui eût démontré que ce qui m'avait si fort effrayé, c'était peut-être le reflet mouvant d'une serviette sur la surface humide du dallage. Peut-être l'ombre d'une feuille projetée du dehors à travers la croisée qu'elle eût certainement voulu admettre rien de semblable. Son esprit, nourri de rêves, tourmenté par des exactions pessimistes, instinctivement porté vers le mystérieux et le fantastique, acceptait avec une dangereuse crédulité les raisons les plus vagues, subissait les plus troublantes suggestions. Elle imagina que ses caresses, ses baisers, ses bercements me communiquaient les germes de son mal, que les crises nerveuses dont j'avais failli mourir, les hallucinations qui m'avaient mis dans les yeux l'éclair sombre d'une folie, lui étaient comme un avertissement du ciel, et dans cette minute même, la dernière espérance mourut en son cœur. Marie retrouva sa maîtresse demi-nue qui se tordait sur le lit. Mon Dieu, gémissait-elle, c'est fini, mon pauvre petit Jean, mais toi aussi ils te prendront, mon Dieu, aie pitié de lui. Est-ce que ce serait possible, si petit, si faible? Et tandis que Marie ramenait sur elle les couvertures tombées, essayait de la calmer. Ma bonne Marie, balbutia-t-elle, écoute-moi. Promets-moi, oui, promets-moi de faire ce que je te demanderai. Tu as vu tout à l'heure, tu as vu, n'est-ce pas? Eh bien, prends Jean, élève-le, parce que moi, vois-tu, il ne faut plus. Je le tuerai. Tiens, tu viendras habiter dans cette chambre, tout près avec lui. Tu le soigneras bien, et puis tu me raconteras ce qu'il aura fait. Je le sentirai là, je l'entendrai, mais tu comprends, il ne faut pas qu'il me voie. C'est moi qui le rends comme ça. Marie me tenait dans ses bras. Voyons, madame, c'est pas raisonnable, disait-elle, et vous mériteriez bien qu'on vous gronde, par exemple. Mais regardez-le, votre petit Jean, il se porte comme une caille. Dites, mon petit Jean, vous êtes vaillant. Tenez, le voilà qui rit, le mignon. Allons, embrassez-le, madame. Non, 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 s'écria violemment ma mère. Il faut pas. Plus tard, emporte-le. Et le visage contre l'oreiller, épouvantée, elle sanglota. Il fut impossible de lui faire abandonner ce projet. Marie comprenait bien que, si sa maîtresse avait quelque chance de revenir à la vie normale, de se guérir de ses humeurs noires, ce n'était point en se séparant de son enfant. Dans le triste état où ma mère se trouvait, elle n'avait qu'une chance de salut, et voilà qu'elle la rejetait, poussée par on ne sait quelle folie nouvelle. Tout ce qu'un petit être met de joie, d'inquiétude, d'activité, de fièvre, d'oubli de soi-même au cœur des mères. C'était cela qu'il lui fallait. Et elle disait: Non, non, il ne faut pas, plus tard, emporte-le. Et ce familier du rude langage que son long dévouement autorisait, la vieille domestique fit valoir à sa maîtresse toutes les bonnes raisons, tous les arguments dictés par son esprit pratique et son cœur simple de paysanne. Elle lui reprocha même de déserter ses devoirs, parla d'égoïsme et déclara qu'une bonne mère qui avait de la religion, qu'une bête sauvage même, n'agirait pas comme elle. Oui, conclut-elle, c'est mal. Vous n'avez point déjà été si tendre avec votre mari, le pauvre homme. S'il faut maintenant que vous fassiez le malheur de votre enfant. Mais ma mère, toujours sanglotant, ne put que répéter: Non, 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 il ne faut pas, plus tard. Emporte-le. Ce que fut mon enfance, un long engourdissement. Séparé de ma mère que je ne voyais que rarement, fuyant mon père que je n'aimais point, vivant presque exclusivement, misérable orphelin, entre la vieille Marie et Félix, dans cette grande maison lugubre, dans ce grand parc désolé, dont le silence et l'abandon pesaient sur moi comme une nuit de mort, je m'ennuyais. Oui, j'ai été cet enfant rare et maudit, l'enfant qui s'ennuie. Toujours triste et grave, ne parlant presque jamais, Je n'avais aucun des emportements, des curiosités, des folies de mon âge. On eût dit que mon intelligence sommeillait toujours dans les limbes de la gestation maternelle. Je cherche à me souvenir, je cherche à retrouver une de mes sensations d'enfant. En vérité, je crois bien que je n'en eus aucune. Je me traînais tout vague, abêti, sans savoir à quoi occuper mes jambes, mes bras, mes yeux, mon pauvre petit corps qui m'importunait comme un compagnon irritant dont on désire se débarrasser. Pas un spectacle, pas une impression ne me retenait quelque part. J'eusse voulu être là où je n'étais pas, et les jouets aux bonnes odeurs de sapin s'amoncelaient autour de moi sans que je songeasse seulement à y toucher. Jamais je ne rêvais d'un couteau, d'un cheval de bois, d'un livre d'images. Et aujourd'hui, lorsque sur les pelouses des jardins et le sable des grèves, je vois des bébés courir, gambader, se poursuivre, je fais aussitôt un pénible retour vers les premières années mornes de ma vie, et en écoutant ces clairs rires qui sonnent l'angélus des aurores humaines, je me dis que tous mes malheurs me sont venus de cette enfance solitaire et morte sur laquelle aucune clarté ne se leva. J'avais 12 ans à peine quand ma mère mourut. Le jour que ce malheur arriva, le bon curé Blanchetière, qui nous aimait beaucoup, me serra contre sa poitrine, puis il me considéra longuement. Et des larmes plein les yeux, il murmura plusieurs fois: pauvre petit diable! Je pleurais très fort, et c'était surtout de voir pleurer le bon curé, car je ne voulais pas me faire à l'idée que ma mère fût morte et que plus jamais elle ne reviendrait. Durant sa maladie, on m'avait défendu de pénétrer dans sa chambre. Elle était partie sans que je l'eusse embrassée. Pouvait-elle donc m'avoir ainsi quitté? Vers l'âge de 7 ans, comme je me portais bien, elle avait consenti à me reprendre davantage dans sa vie. C'est à partir de ce moment surtout que je compris que j'avais une mère et que je l'adorais. Et toute ma mère douloureuse, ce fut pour moi ses 2 yeux, ses 2 grands yeux ronds, fixes, cerclés de rouge, qui pleurait toujours sans un battement des paupières, qui pleurait comme pleure le nuage et comme pleure la fontaine. J'avais ressenti tout d'un coup une douleur aiguë aux douleurs de ma mère, et c'est par cette douleur que je m'étais éveillé à la vie. Je ne savais de quoi elle souffrait, mais je savais que son mal devait être horrible à la façon dont elle m'embrassait. Elle avait eu des rages de tendresse qui m'effrayaient et m'effraient encore. En m'étreignant la tête, en me serrant le cou, en promenant ses lèvres sur mon front, mes joues, ma bouche, ses baisers s'exaspéraient, se mêlaient aux morsures, pareils à des baisers de bête à m'embrasser. Elle m'était vraiment une passion charnelle d'amante, comme si j'eusse été l'être chimérique, adoré de ses rêves. L'être qui n'était jamais venu, l'être que son âme et que son corps désiraient. Était-il donc possible qu'elle fût morte? J'implorais avec ferveur la belle image de la Vierge, à laquelle tous les soirs, avant de me coucher, j'adressais ma prière. Sainte Vierge, accordez une bonne santé, une longue vie à ma mère chérie. Mais le matin, mon père, silencieux et tout pâle, avait reconduit le médecin jusqu'à la grille, et tous deux avaient une figure si grave qu'il était facile de voir qu'une chose irréparable s'était accomplie. Et puis les domestiques pleuraient. Et de quoi eussent-ils pleuré, sinon d'avoir perdu leur maîtresse? Et puis le curé ne venait-il pas de me dire: pauvre petit diable, d'un ton d'irrémédiable pitié. Et de quoi m'eût-il plaint de la sorte, sinon d'avoir perdu ma mère? Je me souviens, comme si c'était hier, des moindres détails de la affreuse journée, de la chambre où j'étais enfermé avec la vieille Marie, j'avais entendu des allées et venues, des bruits inaccoutumés, et le front contre la vitre à travers les persiennes fermées, je regardais les pauvrettes s'accroupir sur la pelouse et marmotter des oraisons, un cierge à la main. Je regardais les gens entrer dans la cour, les hommes en habits sombres, les femmes longs voilées de noir. Ah, voilà Monsieur Bas-Coupeux. Ah, tiens, c'est Madame Provost. Je remarquai que tous avaient des figures désolées, tandis que, près de la grille grande ouverte, des enfants de chœur, des chantres embarrassés dans leurs chapes noires, des frères de charité avec leurs dalmatiques rouges, dont l'un portait d'une bannière et l'autre la lourde croix d'argent, riaient en dessous, s'amusaient à se bourrer le dos de coups de poing. Le bedeau, agitant ses tintinelles, refoulait dans le chemin les mendiants curieux. Une voiture de foin qui s'en revenait fut contrainte de s'arrêter et d'attendre. En vain, je cherchais des yeux le petit sorieur, un enfant estropié de mon âge, à qui tous les samedis je donnais une miche de pain. Je ne l'aperçus point et cela me fit de la peine. Et tout à coup, les cloches au clocher de l'église tintèrent. Ding, dang, dong! Le ciel était d'un bleu profond, le soleil flambait. Lentement, le cortège se mit en marche. D'abord les charitons et les chantres, la croix qui brillait et la bannière qui se balançait, le curé en surplis blanc, s'abritant la tête de son psautier, puis quelque chose de lourd et de long, très fleuri de bouquets et de couronnes, que des hommes portaient en vacillant sur leurs jarrets, puis la foule, une foule grouillante qui emplit la cour, ondula sur la route, une foule dans laquelle bientôt je ne distinguais plus que mon cousin Merel, qui s'épongeait le crâne avec un mouchoir à carreaux. Ding, dong, dong! Les cloches tintèrent longtemps, longtemps. Oh, le triste glas! Ding, dong, dong! Et pendant que les cloches tintaient, trois pigeons blancs ne cessèrent de voleter et de se poursuivre autour de l'église, qui en face de moi montrait son toit à gauche et sa tour d'ardoise, mâle d'aplomb, au-dessus d'un bouquet d'acacias et de marronniers roses. La cérémonie terminée, mon père entra dans ma chambre. Il se promena quelques minutes de long en large, sans parler, les mains croisées derrière le dos. Oh, mon pauvre monsieur, gémissait la vieille Marie, quel grand malheur! Oui, répondait mon père, c'est un grand, oui, bien grand malheur. Il s'affaissa dans un fauteuil en poussant un soupir. Je le vois encore, avec ses paupières boursouflées, son regard accablé et ses bras qui pendaient. Il avait un mouchoir à la main et de temps en temps il tamponnait ses yeux rougis de larmes. Je ne peux pas assez bien soigner, vois-tu, Marie. Elle n'aimait point que je fusse près d'elle. Pourtant, j'ai fait ce que j'ai pu, tout ce que j'ai pu. Comme elle était effrayante, toute rigide sur son lit. Ah, Dieu, je la verrai toujours comme ça. Tiens, elle aurait eu 31 ans après-demain. Mon père m'attira près de lui et me prit sur ses genoux. Tu m'aimes bien tout de même, mon petit Jean, me demanda-t-il en me berçant. Tu m'aimes bien, dis, je n'ai plus que toi. Et se parlant à lui-même, il disait, oh, peut-être bien, faut-il mieux qu'il en soit ainsi. Que serait-il arrivé plus tard? Oui, cela vaut peut-être mieux. Ah, pauvre petit, regarde-moi bien. Et comme si, à cet instant même, dans mes yeux, qui ressemblaient aux yeux de ma mère, il eût deviné toute une destinée de souffrance, il m'étreignit avec force contre sa poitrine et fondit en larmes. Mon petit Jean, oh, mon pauvre petit Jean! Vaincu par l'émotion et par la fatigue des nuits passées, il s'endormit, me tenant dans ses bras. Et moi, envahi tout à coup par une immense pitié, j'écoutais ce cœur inconnu qui pour la première fois battait près du mien.